Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de eTeachers. Et comme vous l'avez peut-être compris, que vous le voyez, nous avons changé de système de streaming, c'est pour ça que nous sommes un peu en pleine phase d'essai. Et ma foi, j'espère que vous pouvez nous voir en direct sur YouTube, sachant que j'ai l'impression que nous avons perdu du monde, non ? Ou tout le monde est bien là ?
Non,
salut
non,
Seb.
Non, tout le monde est là, t'inquiète. Hein.
Ça marche pas tout à fait pareil.
C'est pour ça ?
J'ai pas mes petites pastilles. Ah si, ça y est, Jeff est de retour sur la pastille, j'avais perdu Jeff.
Si, je suis d'accord.
Bonsoir
à tous, c'est surtout une nouvelle saison, j'ai vérifié, c'est la sixième saison.
C'est la sixième saison,
t'imagines, donc depuis 2014 le premier épisode, tu vois,
ah, on va regarder tout à l'heure. Mon Jeff, le temps passe.
C'est ça. Tout à fait.
Bon,
vous avez bien repris les gars ?
Eh bah écoute, il a bien fallu, et toi Seb ?
Ça va, merci, bonne forme. Reprise habituelle avec mes trois petits niveaux, mais ça va.
Bon,
on est chaud pour une nouvelle saison.
Ouais, désolé, hein, on a quelques petites connection issues, comme me dit mon ordinateur. J'ai peu de débit, j'espère que je ne suis pas trop haché.
Non,
voilà,
ça va.
En tout cas, on est très content d'être de retour avec vous tous pour cette nouvelle année, avec ma foi une volonté de continuer à échanger sur notre podcast, en espérant vous avoir avec nous de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux. Je crois que c'est quand même pas mal. Hein. On a quand même de plus en plus de gens qui nous écoutent, n'est-ce pas, les gars ?
Ouais, tout à fait. Je sais, on a eu un peu plus d'écoute. On nous suit un peu plus sur les réseaux sociaux, donc tant mieux. Hein, c'est cool. Voilà.
Ouais, on a eu un petit effet Ludovia sur le Twitter, on va dire.
Ouais, tout à fait. On va en revenir un petit peu sur Ludovia. Et puis c'est l'année du numéro 100, les gars aussi. Hein.
Ah bah tiens.
Ah bon.
Et
on
oui.
va pouvoir se faire un super beau gâteau et une belle.
Essouffler les bougies.
Ouais. Alors on avait fait un truc sympa pour le numéro 50. On avait eu du monde qui était venu dans l'émission. On avait passé un moment agréable. On va essayer de renouveler l'édition cette année avec. Quelque chose d'un peu original, on va voir quoi, mais ça arrive bientôt en plus, hein. Je crois que c'est dans deux ou trois épisodes, non ?
On est sur le 95 aujourd'hui.
Ah, donc 5, ok, très bien. Bon, bah, ma foi, voilà. Plus que 4 en tout cas. On en reparlera en temps voulu, ce sera peut-être l'occasion, pourquoi pas, de lancer un petit jeu concours, quelque chose, des petites choses comme ça, on va trouver, ça va être bien.
On va y réfléchir.
Bon, alors, quoi de neuf ? Qu'est-ce qu'on fait de beau ?
Allez. Un beau sommaire en tout cas, on va faire un petit retour sur l'émission précédente avec Seb sur nos 4 jours à Ludovia. On va faire un petit retour assez rapide sur un petit peu ce qui nous a marqué, j'ai dit à Seb tout à l'heure, allez, trois faits marquants de Ludovia. On va partir sur les actus, je crois que c'est Seb qui a quelque chose,
qui
m'intrigue, j'en parle pas plus.
Voilà, on commencera l'année en beauté, tu vas voir.
D'accord. De l'outil en tout cas deux outils en tout cas qu'on va présenter. J'ai mis quelques trucs et astuces. Vous allez voir, je crois que vous êtes le seul sur là-dessus. J'ai un petit article sur la partie innovation et expérimentation. On va un peu parler un peu des bonnes technologies éducatives.
Oh là là. Ça sent le débat.
C'est ça. Et ce que l'on fait en ce moment, bien sûr. Et puis et on finira pour parler d'autres choses comme on fait depuis quelques temps maintenant. On fait un petit retour sur les émissions précédentes.
Allez.
Et comment elle s'appelait l'émission précédente ?
Allez. Donc sur Ludovia, je t'ai pris un peu dépourvu tout à l'heure Seb sur, euh, sur te demander les trois faits marquants de Udovia, si comme ça, là, rapidement. Tu veux que je commence? Ouais.
Oh, comme tu veux. Oui, vas-y, vas-y. Allez.
Allez. Moi, il y en avait un qui me sautait aux yeux, hein, qui était un peu partout, dont notre ministre l'a parlé, c'est des compétences numériques, le CRCN, le fameux CRCN, où on va avoir au collège et au lycée, en tout cas pour l'instant, et dans le supérieur, une certification aux compétences numériques, avec la plateforme PIX. Et ouais, ils étaient là en tout cas partout sur Udovia. Ils ont beaucoup communiqué dessus. Le discours du ministre a appuyé là-dessus aussi. Pour lui, il faudrait dès cette année en tout cas qu'on puisse en tout cas certifier nos élèves de 3e et nos élèves de terminale. Ce qui me semble, je pense, assez compliqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends dire. Ce que quelques-uns vont le prendre en tout cas. Vont pouvoir en tout cas faire des petits tests de positionnement des élèves, mais une certification cette année me paraît un peu compliquée pour l'instant. La plateforme est encore la plateforme PIX marche très bien, mais la plateforme version enseignant gestion de classe n'est pas encore tout à fait au point. Donc je pense que oui, on peut l'utiliser, c'est une très bonne plateforme, on en avait déjà parlé, hein, je crois, je n'ai pas peine d'y revenir dessus. Moi je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Je pense que vous l'avez essayé, hein, tous les deux, hein.
Non, PIX.
Ouais.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mmh. Ouais. Moi, je trouve plutôt bien fait. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai été bluffé. Hein. On nous a présenté ça au mois de mai. Là, j'ai trouvé que c'était par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant de la certification ou les restes de B2I ou je ne sais quoi, de C2I. C'était une autre époque, quoi. On va dire. Là, ça s'adapte en plus. C'est malin.
C'est bien pensé.
Non. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Et puis, quand on nous les a fait tester, on était en séminaire d'interlocuteurs académiques là. Donc plutôt des gens clairement plutôt comment dire qui ont une certaine appétence et à l'aise avec ça, et ben il y a des trucs, moi j'ai appris des trucs, hein, des trucs tout bêtes, et puis ça va surtout sur les traitements de texte, sur donc vraiment
ça va très loin.
Non, vraiment agréablement surpris, ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que je vois pas comment ça pourrait être mis en place cette année, en toute honnêteté, hein.
Bah surtout la certification, je pense que le faire essayer aux élèves, leur faire deux, trois...
Ah bah bien sûr, oui, bien sûr.
Deux, trois des exercices, il n'y a pas de souci, mais la certification me paraît compliquée. Ouais. Allez, Seb, à toi, le premier.
Alors, moi, petit atelier auquel on a assisté tous les deux, en plus, c'était Cadre 21. Ouais. C'était une... c'est dur de les qualifier. Un espèce d'équivalent de canopée dans le privé pour les enseignants québécois. Et alors, comme toujours, c'est le côté très professionnel qui m'a assez épaté. Donc, il cible directement les enseignants du public au Québec et surtout la formation de ces derniers, puisqu'apparemment, il y a une légère crise, on va dire, dans le pays au niveau des enseignants. Et par contre, très très pro à l'américaine, c'est-à-dire on était un peu loin du magistère, on était vraiment dans une offre adaptée à ce que demandent les enseignants, avec des open badge, avec une valorisation des acquis, etc. Très très loin de ce avec quoi on essaie de naviguer chez nous, quoi. Donc, et une, alors par contre,
d'accord.
Ce qui pouvait être pas inquiétant, mais avec une volonté de s'implanter dans la francophonie, pas seulement de se limiter au Québec.
Tout à fait, et ils y sont déjà implantés, parce qu'il y avait quelques établissements qui déjà se faisaient former par Cadre 21. Alors plutôt dans le privé pour l'instant, je pense. Mais il y avait une grosse volonté en tout cas. Mais c'est vrai que c'était un peu à l'américaine, je suis d'accord avec toi.
Ah, c'est très à l'américaine.
Mais il y avait pas mal d'idées à piquer.
Qu'est-ce que vous appelez à l'américaine?
Américaine, très pro, très marketing, tu vois,
des
visuels qui marquent, une volonté d'aller dans les petits détails qui sont tous fonctionnels. Par exemple, tu vois les badges, ils disent clairement les badges, tout de suite, c'est un truc qu'on va sortir du cadre purement formateur, on va le mettre en avant, tu vas le mettre dans ton profil LinkedIn, tu vas le mettre près des gens que tu connais de manière à valoriser ce que tu as acquis sur la plateforme et puis du coup, te fait permettre de parler de la plateforme aussi. Donc
Et après c'était de la formation hybride, hein, puisqu'il y avait aussi du présentiel, hein, dans leur formation, hein.
D'accord. Ok. Ouais.
Non, intéressant.
Bah, de toute façon, sur la formation, les anglo-saxons, pour parler de ce que je connais le plus, sont absolument, prennent ça, comment dire, vraiment pas plus au sérieux, parce qu'on va pas dire qu'on la prend pas au sérieux chez nous, mais c'est exactement ça, quoi. Mais de toute façon, c'est le monde anglo-saxon en général qui a ce côté beaucoup plus entreprise, corporate, là, comme on dit. Je sais pas si c'est marketing, mais en tout cas, qui donne un cadre un peu plus peut-être sérieux. Alors pour certains, c'est trop, mais ce que vous décrivez, c'est ça, quoi. C'est, on a tous nos profils, on met en avance nos skills, nos compétences, qu'on a fait. Enfin, c'est toujours très, très connoté.
Allez, deuxième coup de cœur, non pas de coup de cœur, plutôt de fait marquant. Moi, c'était la présence de tout ce qui était intelligence artificielle, puisque ça a été vraiment le on en voyait un petit peu partout de Staï, hein. Et c'est du concret, puisque en cycle 2, hein, puisqu'il y a une expérimentation en cycle 2 sur le français et les maths, hein, où il est en train de, en tout cas, des certains laboratoires, en tout cas, qui sont en train de développer de l'AI, en tout cas, en direction des élèves. Et il y aura des expérimentations dans les classes, dès cette année, en tout cas, d'AI en français et en maths. Donc, j'ai vraiment hâte de voir un peu, en tout cas, les retours de cette intelligence artificielle, puisqu'on est dans toutes les bouches de tout le monde en ce moment.
Et concrètement, ça se manifestait comment? Enfin, c'était quoi qui était proposé?
Pour l'instant, il n'y a rien qui a été proposé. On n'a rien vu, hein, de concret. Il y a deux labos, en tout cas. Alors, on ne peut pas encore tout à fait dire de quel labo, même si j'ai des sources, mais je ne peux pas le dire, qui vont travailler vraiment sur un genre de soft, a priori, hein, qui va permettre, en tout cas, d'aller au rythme de l'élève, de proposer des parcours individualisés, des choses comme ça. Voilà. On est vraiment au balbutiement, en tout cas, de Staï dans les classes. Et il cherche des classes, hein, parce que j'ai dit, Seb, vas-y. Je lui ai dit, vas-y.
Non, ça va. Moi, du parcours individualisé, ce sera avec mon intelligence ô combien naturelle et limitée, je le conviens. Mais...
J'ai bien vu que j'ai pas réussi à te convaincre.
Alors ensuite.
Deuxième fait marquant, ouais.
Alors deuxième, j'ai mis. Oh, ce sera un truc sur lequel je reviendrai. C'est un petit matériel qui s'appelle Blockcell. J'étais dubitatif au début et puis en définitive, je me suis laissé tenter. Mais je vous en parle après dans la rubrique outils.
Ok, bon, bah là, tu n'as pas dit grand-chose.
Non, 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 non. Écoute la suite du podcast, mon ami.
Ouais, troisième fait marquant, moi, c'était les tiers-lieux. Il y en avait de partout. Les tiers-lieux, on a reçu en plus, hein, toute l'association tiers-lieux avec le lab... L'Absent 10, écoutez Ludovia, l'émission juste avant de Ludovia. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment partout, cette histoire de tiers-lieux, hein, de faire des lieux dans les établissements scolaires où on peut, de genre de Fab Lab, de faire intervenir d'autres personnes, des entreprises, des retraités, tout ce mélange-là, ouvert en dehors des cours. Donc voilà, c'était un peu, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler des tiers-lieux. Là aussi, je suis vraiment curieux de savoir, en tout cas, d'en savoir un peu plus aussi encore sur ces tiers-lieux, sur la pérennité, en tout cas, de ces tiers-lieux.
Ça s'appelle tiers-lieux.
Ouais.
Ouais. Alors, je sais pas si c'est une traduction de l'anglais, de quelque chose, mais...
Mais c'est les élèves qui se déplacent ou c'est justement les gens qui viennent, ça que j'ai pas compris?
J'ai peut-être pas entendu.
Alors, il veut savoir si ce sont les élèves qui se déplacent ou si ce sont des gens qui viennent.
C'est un lieu dans l'établissement, ouvert hors période de cours, où les élèves viennent en tout cas proposer des projets, ou c'est des adultes qui viennent proposer des projets. C'est un mélange de tout ce monde-là, en tout cas tout le monde, du quartier, mais oui, du quartier dans les grandes villes, donc voilà, qui peuvent participer avec du matériel, etc., de l'échange.
C'est l'exemple classique, c'est de faire un Fab Lab, quoi.
C'est ça,
du matos, je réunis des compétences, c'est ensuite.
On mélange tout ça, voilà.
On mélange le tout.
Et de faire ça, donc, je disais, dans les établissements. Seb, troisième fait.
Ouais, troisième. J'étais bien, bien. On l'a reçu, hein, dans Ludo Live. C'était Romain Bourdel avec son projet qu'il a mené en collaboration avec sa collègue de SVT. Lui, il est enseignant en physique chimie Et le On vire les paillasses, si je voulais résumer le truc un peu rapidement, ça avait été très sympa de voir comment, pour moi, la salle la plus emblématique du lycée, c'est-à-dire la salle de science avec ses paillasses, toutes les unes derrière les autres, avec ce carrelage. Enfin, c'est un truc, c'est une image d'Épinal qui m'est restée vraiment de ça. Eh bien.
Qui c'est qui fait les travaux là?
Ah, c'est pas moi. Moi, c'était les poubelles qui sont passées.
D'accord.
Donc, de voir au combien ils avaient réussi avec sa collègue à redéfinir toute la salle, à vraiment remettre un bon coup de pédagogie.
Guillaume, c'est toi qui fais du travail. T'as entamé les travaux, quoi?
Pardon?
Guillaume?
Oui.
On l'a perdu. C'est toi qui fais les travaux, là?
Non, je suis désolé, j'ai branché mon, j'ai branché mon ordinateur. Pourquoi ça s'est entendu?
D'accord.
Tantinet.
Ah, putain, j'entendais que ça, là.
Mais qu'est-ce que vous entendez? J'ai juste branché mon chargeur.
Oh, ah, ça fait plein de bruit, donc ça arrête pas, voilà. Là.
Bref.
Donc.
Allez, on est parti. On attaque?
Allez,
on attaque.
Et voilà, en tout cas, pour résumer,
oui, parce que moi j'avais des questions quand même, comme j'ai pas pu le faire. C'est voilà. Globalement bonne ambiance, toujours des gens sympas, voilà. Du monde, tout ça.
Super rencontre de différentes
des retrouvailles.
Personnes. Voilà, oui aussi,
et des
oui,
rencontres.
Bien sûr. Beaucoup de rencontres, beaucoup de partages jusqu'à tard la nuit. Très dur le matin de se lever aussi, mais voilà, non, vraiment dans une ambiance encore mi-vacances, mi-reprise. Donc, et on discute avec plein de types, voilà, entre les enseignants, les inspecteurs, les industriels, les gens du ministère, voilà.
Super.
C'est assez facile d'accès, voilà. C'est unique, moi, je trouve, moi, les deux verres, voilà.
Et de la pluie.
Oui, on a eu de la pluie cette année, c'est vrai. Ouais,
ouais, ouais. On a un petit peu morflé le premier jour, oui.
C'est vrai. Allez, les actus. Seb,
alors,
c'est toi, je crois qu'il y a mis quelque
chose.
Ah
là là. Bon, alors, actualité. Balance ta fiche de paye. Alors, au départ, était une petite matinale avec un éditorialiste de LCI qui a présenté un merveilleux article ayant pour titre « Les profs français sont-ils mal payés ?» Voilà. Donc, il a sorti des chiffres merveilleux. Merveilleux, malheureusement complètement faux, puisque on était à peu près à 1000 euros de plus tous au niveau de la fiche de paye, apparemment. Voilà.
Oui, je l'ai vu,
et le soir même sur Twitter, quand j'ai commencé à lire, parce que c'est là que j'ai appris l'existence de ce monsieur, quand j'ai commencé à lire ce qu'il avait dit, j'ai eu un gros. Et comme d'habitude, action égale réaction. Les collègues, voyant ça, ont balancé le hashtag « balance ta fiche de paie de prof » et ont commencé à balancer leur fiche de paie en disant « mais c'est n'importe quoi ce que raconte LCI, regardez ma fiche de paie ». Action-réaction, on a eu droit à une bonne flopée de « oh mais putain, mais en plus, ils touchent plus de 2000 balles et ils se plaignent avec leurs vacances, etc. » Bon, il y a des jours où, franchement, Twitter, il vaut mieux le fermer. Surtout quand t'es prof. Donc là, c'était, comment dirais-je, assez désagréable de lire un bon paquet de commentaires. Je sais, il ne faut pas lire les commentaires. Je sais. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Et surtout quand dans les gens que tu suis, eh bien, il y en a une bonne partie qui commentent les commentaires. Donc du coup, mon fil Twitter s'est transformé en une longue chronique de la haine ordinaire. J'ai envie de vous dire, les gens, alors ceux qui nous écoutent, la plupart le savent, mais les gens ont fait une profession qui est peut-être mal aimée, mais si vous la trouvez, si elle est si formidable, il faudra nous expliquer pourquoi elle est si désertée. Si elle est si bien payée avec des vacances si formidables, pourquoi il y en a de moins en moins qui s'y présentent. C'est un grand mystère de la vie. Bonne chance à celui qui m'expliquera la solution. Et ce qui m'a fait le plus de peine, en fait, là-dedans, c'est plutôt la réaction des professionnels de santé, dont certains qui se sont dit « Ah ben en plus, vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas de truc, vous n'avez pas de machin. » Les gars, on est dans le même créneau, là. On est dans le même bateau. Je serais d'accord pour qu'on vous augmente, les professionnels de santé, mais vous n'avez pas idée. Je serais d'accord pour qu'on augmente les éboueurs aussi, parce que tu enlèves les éboueurs dans une ville, t'enlèves les personnels de santé, c'est la daube la plus complète. Alors que ben, tous ceux qui ont des salaires mirobolants, et je vous parle de vrais salaires mirobolants, hein, à, pas à 4, mais à 5, 6 chiffres, eux par contre, ben, on peut les arrêter tout de suite, on s'en fout. Quoi. Clairement, je suis désolé, mais tous les chroniqueurs du monde, dont celui qui a fait ce merveilleux papier en disant « mais j'ai pris les chiffres de l'OCDE », en se plantant lamentablement comme un stagiaire de troisième qui fait son stage là dans une truc, eh bien celui-là est bien plus grassement payé que vous et moi, sûrement, et son utilité reste à démontrer. Moi j'en ai vu une seule, c'est remuer la boue qu'il y a au fond de Twitter, la faire remonter un bon coup pour ce qu'on se rappelle que, ben ouais, on fait une profession qui n'est pas forcément bien aimée. Tu es passé à côté de ce merveilleux hashtag ?
Non, j'ai suivi de loin. J'ai vu le fameux. C'est LCI, hein, ça. J'ai vu
ouais.
Ça. Le truc LCI. J'ai moins fouillé que toi, je pense. Donc, bon, t'as tout dit. No comment.
Ok. Bon, on a perdu Guillaume ?
Non, pas du tout. J'écoute ça parce que moi, à l'inverse, j'ai été un des premiers à hurler devant mon poste. Je l'ai écouté en direct, ce truc, en fait. Et j'étais le premier à écrire un brûlot là-dessus sur Facebook. Et alors j'ai pas balancé ma fiche de paye parce que c'est pas mon truc de faire ça. Et voilà. Par contre, j'ai partagé tout de suite les tableaux de rémunération qui sont disponibles en 3 clics puisque c'est du service public. Et encore une fois, en prenant ça comme un bel exemple de fake news. Donc, au-delà de la fake news, justement, qui, voilà, la preuve par A plus B, t'as bien résumé dans le sens où ça a été à double tranchant de toute façon. Alors, je pense que ça a été quand même positif aussi parce que je pense qu'il y a quand même un paquet de gens qui nous crachent sur la gueule à longueur de journée. Qui pensent vraiment qu'on gagnait beaucoup plus, tu veux, et qui ont vu quand même que par rapport au boulot qu'il y avait, voilà. Mais je pense que il y a toute une partie d'autres gens qui sont dans des situations forcément bien plus difficiles, qui, comme tu le dis, ont aussi dit, mais en plus ils se plaignent, voilà. Donc quoi qu'il arrive, c'est à double tranchant. Moi, ça me fait juste dire que voilà, on est, et que tu l'as dit, on est de plus en plus détesté. J'ai plus peur de dire le mot. J'ai jamais eu autant de discussions cet été avec des gens qui sont hors du système scolaire et qui clairement en disent, hein, qui disent dans mon entourage, dans non prof, il y en a de moins en moins qui disent, comment dire. Clairement, ils veulent pas faire notre boulot, mais on continue quand même à s'en prendre pas mal plein la poire, quoi, ou qui en tout cas discréditent vraiment le système tel qu'il est. Donc ouais, c'est pas une très bonne reprise. Je suis assez pessimiste sur la vision qu'on a aujourd'hui des profs qui s'améliore pas, quoi. Voilà. Et je pense clairement, pour finir là-dessus, pardon, je pense que la volonté qu'un tel éditorialiste fasse un papier là-dessus en dit long sur ce que, on va pas se mentir, LCI, c'est une chaîne de droite, c'est de l'éditorialiste de droite, sur ce que les gens, entre guillemets, de cette mouvance politique peuvent clairement penser. De ça. Ça, j'en suis persuadé, c'était un choix assumé, complet. J'ai même un doute sur le fait que pour le gars, c'était une fake news. Il a pris les chiffres, il savait très bien. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus vicieux là-dessous et de calculé. Mais bon, voilà. Voilà, voilà.
Je sais pas laquelle des versions je préfère.
Ouais, moi non plus. Exactement.
Allez, on passe à la suite alors.
Tout à fait.
Les outils ? Allez. C'est Seb ou
Allez, vas-y, après moi je repars.
Allez, moi je crois que ça va être la sixième saison, c'est ça ?
Ouais.
Je crois que j'ai dû commencer pratiquement les premiers de chaque saison par un plan de classe et trouver un nouvel outil de plan de classe, je crois, non ? Je sais pas, à mon avis.
Écoute, c'est une grande réflexion en ce moment et je vais t'en remercier tout de suite.
D'accord. Chaque année, je change de plan de classe. Il n'y en a jamais un qui a réussi à me convaincre totalement. J'avais Teacher Tool qui était sur Android, là, que j'aimais bien, mais je perdais des fois tout ce que j'avais fait, etc., etc. Donc bon, j'ai encore cherché, j'ai farfouillé, etc. Puis finalement, j'ai trouvé un truc par nos amis canadiens. Plandeclasse.ca. Développé par, alors je l'ai marqué pour ne pas l'oublier, par Sylvain Payeur. On n'en sait pas plus sur le site, en tout cas, ce qu'il fait. C'est gratuit, il suffit de se connecter. Donc, on peut. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aussi un plan de classe. Moi, j'ai pas de de classes en bateau, hein, en autobus. Hein. Donc c'est des îlots, un peu dans tous les sens, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que je peux disposer complètement ma salle de la forme que je veux. Donc on dispose vraiment la salle comme on veut. Ensuite, on vient mettre, on importe nos élèves. Filles garçons, il y a la seule différence, voilà, il n'y a que les différences, c'est filles garçons. Voilà, on peut faire quelque chose d'automatisé, hein. Il nous fait toutes les places automatisées, mais après on peut régler, etc., nos différentes places, etc. Qu'est-ce qu'il fait de plus ce logiciel ? Ben, pas grand-chose de plus. Il le fait très bien, je trouve. On imprime derrière notre plan de classe. On pourrait rajouter des photos, ouais. Alors, je l'ai pas fait, mais c'est assez long de prendre les photos des élèves. Mais bon, je sais qu'il y en a qui le font, hein, début d'année, qui prennent les photos. Moi, je l'ai pas fait, mais on pourrait prendre les photos, voilà. Mais en tout cas, ça le fait super bien. C'est un outil très simple. Et pour l'instant, il m'a totalement convaincu. Plan de classe.ca.
Ok, d'accord. Bah écoute, je vais peut-être l'utiliser parce que moi c'est ma grande réflexion de comment organiser une classe où il y a trois niveaux, deux murs avec des tableaux et j'ai envie que ça bouge, quoi.
Ouais. Donc, non, c'est bien, il est vraiment bien fait. En tout cas, merci à ce Sylvain d'avoir développé ça.
Okay. C'est rigolo.
Alors, on enchaîne ?
Allez.
Ouais. On enchaîne, je vous ai parlé tout à l'heure, Pardon ?
Non, pas si.
Alors, tout à l'heure, je vous ai dit deux mots sur Blockcell, c'est-à-dire un outil que j'avais vu à Ludovia. Alors, ça va parler assez rapidement, je vais prendre un exemple de jeu vidéo dans le commerce. Si vous connaissez Mario Maker, c'est l'idée de faire ces niveaux de plateforme. Alors, Blockcell part un peu sur l'idée... Alors, un peu, attention, calmons-nous, on n'est pas sur du Nintendo non plus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire un niveau de plateforme, un platform maker, donc, en partant d'une grille où on va mettre une grille en plastique. Une grille en plastique dans laquelle on encastre des petits plots de couleurs. Une fois qu'on a fait notre niveau en disant ben, le vert, voilà, c'est pour les plateformes. Ensuite, j'ai mis le rouge pour que ce soit le danger, ou quand on tombe, on perd un cœur. Ensuite, je vais mettre, etc. Donc, on a notre grille de 13 sur 13. On photographie ça avec l'iPad. Et le logiciel, il y a une application disponible, va transformer ça en un niveau de 13 pixels, enfin, de un niveau de votre jeu. Il vous reste plus qu'à à aligner les niveaux, enfin les cases, les unes à côté des autres pour construire tout votre jeu de plateforme. Bon, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez réutiliser la même grille pour dessiner en façon pixel art tous les éléments que vous avez précédemment placés. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, le vert dans le cadre d'un niveau, ça va être de la plateforme. Vous pouvez très bien dessiner ensuite. Ben, je sais pas moi, le truc classique c'est du rocher, et bien le rocher vous le faites en pixel art, vous le reprenez en photo et vous collez cette image sur tous les blocs que vous avez choisi de plateforme. C'est très mignon, voilà, c'est rigolo, on peut faire des tas de choses. Je vais avoir un petit projet là-dessus, donc je vous en reparlerai. Je vais essayer de leur faire adapter une BD qu'on est en train de lire là-dessus. Ça mange pas de pain. Alors, ça c'est les côtés sympas. Il y a une appli qui est dispo, sauf que quand vous allez sur l'appli, on vous dit « Oh là là, mais attendez, il y a Blockcell Edu qui existe !» Et là, ça commence à faire mal, parce que Blockcell Edu, par contre, c'est sur abonnement, et l'abonnement pique un peu. Donc moi, je suis resté sur Blockcell, c'est-à-dire on va faire un truc avec la classe, de toute manière, on ne va pas en faire 50. Mais le principe de pouvoir dessiner la carte de son niveau à partir d'un truc en plastique, puis ensuite, à partir du même, dessiner le héros, l'obstacle... En plus, on peut programmer les ennemis. Voilà, pouvoir faire tout ça à partir d'une grille unique, j'ai trouvé le principe sympathique à voir dans l'utilisation avec une classe entière. Mais je pense quand même qu'on va s'en tirer.
Ouais, en tout cas, c'est sympa. Ouais. C'est très sympa, Bruxelles.
J'ai vu le projet qu'avaient mené les collègues avec des élèves de SECPA, ça m'avait bien plu.
Après, voilà. J'étais passé à côté, moi.
Non, mais tu étais un autre atelier, je sais. Tu n'es pas au même.
Eh bien, très bien.
Bon, à moi.
Guillaume ?
Ouais. Je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Glide et comme son nom ne l'indique pas vraiment, c'est plutôt pas mal foutu. Il s'agit en fait à partir d'un Google Doc, d'un tableur exactement Google Doc, de générer en fait une sorte d'application, en tout cas quelque chose qui sera responsive et que les élèves pourront à partir d'un QR code accéder. Donc bon, attention, hein, vous n'allez pas coder bien sûr. Des tonnes de trucs, c'est surtout rassembler des ressources. Donc en fait, j'ai mis un exemple que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission. Mais en fait, les tableaux que vous allez pouvoir générer sont toujours un petit peu du même sur le même mode, hein, bien sûr, avec une colonne dans laquelle vous allez mettre un lien vers l'image que vous souhaitez voir affichée, une colonne qui va correspondre à une rubrique. Voilà, il y a des. J'ai pas eu l'occasion d'essayer encore, hein, c'est quelque chose que j'ai lu dans la veille. Une colonne vraiment avec les questions, les réponses, des liens vers des vidéos, si vous voulez. C'est plutôt pour rassembler de la ressource, en fait, hein, clairement. Et ça donne un effet qui est plutôt sympa. Qui est vraiment adapté au portable. Bon, vous pouvez voir le rendu sur un ordinateur. Et on a l'impression d'avoir une petite web app qui est plutôt sympa. Donc, clairement, pour rassembler des sources, moi je sais qu'en anglais, on a beaucoup, beaucoup besoin de ressources médias. En langue vivante, enfin dans toutes les matières qui demandent beaucoup de ressources vidéo, de choses comme ça, on peut compiler. Ça sera plus pour un usage, on va dire, en autonomie de l'élève annuel ou voilà une banque de ressources. Clairement, c'est plutôt pas mal. Ou une banque d'exercices, donc à faire, qui renvoie vers différents liens. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est un agrégateur de contenu un peu sympa qui est généré automatiquement à partir d'un tableau, tout simplement. Ça s'appelle Glide, donc c'est gratos, bien sûr. Et pourquoi pas, là, l'article de la collègue qui a fait une sorte d'article dessus, une petite démo, propose à la fin surtout de le proposer aussi comme atelier de création par les élèves. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre de projets, nous on voit bien en anglais, en langue vivante, nos fameuses tâches finales, leur proposer de compiler un certain nombre de choses avec cet outil. Voilà, Glide.
D'accord. Moi, je sais que des collègues l'ont utilisé pour faire une appli de présentation de leur école.
Oui, bah, tu peux
Donc, tu
tout à fait
vois.
le faire. Ça rend pas mal, hein. En plus, tu as le générateur donc d'appli, tu vois ton téléphone tu peux le voir au fur et à mesure sur l'écran en fait de l'ordinateur avant de scanner et vraiment de le voir sur le téléphone, et ça génère donc le QR code automatiquement. Vraiment vraiment c'est pas mal. Glide Apps exactement, et bon, il y a plein de modèles tout prêts, hein, pour d'organiser différemment les contenus. Voilà.
D'accord.
Vous irez
voir.
Ouais,
à l'avant en poupe, en tout cas, c'est appli en ce moment. Pas mal de.
C'est vrai? T'en entends parler un peu à droite à gauche?
Ouais.
Ouais, je pense que c'est un peu à la mode. Alors après, bon, je me méfie
Non,
toujours.
mais
Hein,
elle est
c'est.
bien, elle est assez simple de mise en place, et le rendu est vraiment chouette, quoi.
Le rendu est chouette, voilà. Moi, je le vois vraiment comme de la ressource, en fait. De la présentation de ressources qui change un peu, puisque ni plus ni moins, tu mets tout ça dans un blog, tu mets tout ça dans un. Padlet, dans ce que tu veux, c'est la même chose, hein, mais voilà. Pour l'instant, c'est
Très
gratuit en tout
bien,
cas.
très bien. Très bien, très bien. C'est à moi, truc et astuce.
Ah, les trucs et
Book
astuces, c'est
Academy, c'est
toi.
ça? Alors, j'ai mis un. Alors, c'est un tweet, hein, exactement, que j'ai mis, que moi je connaissais pas. Je sais pas si Seb, je pense que c'est plus pour le premier degré, mais tu vas en tout cas me dire. Donc, c'est un dispositif tout bête, en carton, je pense. En carton, ou qui vont servir à comprendre en tout cas l'addition et surtout les retenues. Donc.
Ah.
Comment le décrire, ce truc-là? Moi, je connaissais pas, j'ai trouvé ça plutôt génial. Donc, c'est un carton où on va retrouver des trous où on va mettre les chiffres. Et on va pouvoir mettre les chiffres, et en dessous, on va voir vraiment le résultat de l'addition. Et on va pouvoir voir comment quand on va faire, par exemple, 5 plus 6, par exemple, ça fait 11. Donc, on va pouvoir écrire le 11 en dessous. Et le 1 qu'elle a retenu va pouvoir remonter en haut, et qu'on va pouvoir additionner les dizaines avec. Je trouve ça tout bête. Alors, C'est pas très audiophile, hein, c'est pas très audio.
Non, c'est très visuel.
C'est très visuel. Mais je trouve ça plutôt génial. Moi, je connaissais pas. Après, peut-être que c'est vrai que c'est pas mon domaine non plus. Je sais pas ce que t'en pensais.
Je comprends pas bien le. Pardon, le. C'est vraiment juste histoire de matérialiser la retenue, en
la
fait.
La retenue, tout à fait.
D'accord, mmh. C'est vraiment juste ça. Quoi. Okay.
Après, voilà, moi, je sais qu'il y a pas mal de collègues qui vont aimer. Après, le matheux qui est en moi va te dire que ça le dérange. Parce que du coup, tu fais une colonne qui n'existe pas, celle de la retenue, alors que techniquement...
D'accord.
Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il y a cette colonne flottante. Alors, je sais très bien, on va me dire, oui, mais tu comprends, c'est la manipulation et tout ça. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'idée, c'est juste une étape intermédiaire qui peut être très sympa pour des élèves en difficulté. Pourquoi pas ?
Moi, je trouve que ça donne du sens à la retenue, mais... Voilà.
Oui, on est d'accord. Mais après, si tu fais le truc, c'est que, tu vois, ce genre de choses... C'est peut-être un peu vouloir absolument arriver à une technique sans avoir les prérequis chez le gamin qui comprend pas que eh ben 11 dans 11 ben il y a 1 dans 12 voilà il y a 1 mais ce 1 c'est une dizaine, c'est pas seulement 10 à lui. Et ça c'est un gros travail derrière apparemment. Mais bon, oui.
En tout cas, moi je connais. C'est vieux comme le monde ça ou non? Moi j'ai découvert ça pendant
Non, écoute, c'est pas vieux comme le monde. Moi, je l'ai découvert sur le même tweet que toi, je pense. Donc,
Tu vois, donc c'est récemment aussi. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais, ça va.
Il y a des chances.
Non, allez voir. J'ai mis le tweet sur la petite vidéo
dans les notes,
sur les notes de l'émission. Je pense qu'il faut vraiment aller la voir. Parce que je sais pas si ça a un nom en plus. Hein,
je ne saurais pas te dire. Là,
je sais pas. Allez, c'était un petit truc et astuce, ça m'a plu. J'en ai mis un deuxième, parce que je suis le seul à avoir mis un truc et astuce. C'est, je cherchais des petits bruitages. Ouais, je cherchais des petits bruitages. On a toujours besoin de petits bruitages dans une vidéo, dans un quelque chose audio, etc. Cherchais bien sûr du libre de droit. C'est une mine, ça s'appelle la sonothèque.org. Vous irez voir, il y a vraiment de tout et on trouve vraiment, c'est une mine, hein, il y a vraiment dans tous les domaines, du bruitage, du son, vraiment génial.
J'ai eu l'occasion d'en parler il y a très longtemps dans un des premiers Itiches, j'avais parlé de la sonothèque.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, tu vois. Merde.
C'est pas grave.
Le retour, là.
Mais c'est vieux.
En tout cas, ça a bien évolué, vraiment.
Non, ça a évolué, parce que moi je m'en sers souvent.
Mais c'est toujours un seul gars qui est derrière en plus.
Hein ?
Ils sont pas 50 à faire ça. C'est un seul gars.
C'est vrai.
Écoute, dans mes souvenirs, si c'est bien le même site auquel je pense, l'image que tu arrives, la bannière, c'est le gars avec
Joseph,
son micro-père.
Joseph Sardin.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Donc c'est le gars qui enrichit ça. Voilà.
Joseph Sardin. J'ai son nom. Impressionnant.
Ok.
T'en avais parlé.
Allez,
bon,
on enchaîne.
Je rechercherai ça. Mais rien à voir avec ce que t'en avais parlé, quoi.
Non, moi j'avais juste pareil expliqué pour quand on fait un peu de son, on a besoin de montage. Mais très bien, c'est bien d'en reparler.
Voilà, dans la série
très bien.
Des choses dont on a déjà parlé, on va parler de François, c'est ça ?
Qu'on a même reçu.
Ouais, qu'on avait même reçu et qui a toujours des articles assez intéressants. Donc moi je suis tombé sur un article qu'il a publié sur son blog, en tout cas profjourde.wordpress.com. Qui a peut-être un .com, peut-être aussi, il m'excusera. C'est peut-être profjourde.com, peut-être, ou .fr. Où il a fait un article sur les qu'est-ce qu'une bonne technologie éducative, les 9 règles de Stephen Downes. Alors, Stephen Downes, déjà, il faut aller. Donc, avant de parler de Stephen Downes, donc il dit que les technologies éducatives ont existé depuis très très longtemps, puisqu'il met en lien toute une frise chronologique des machines pour apprendre. C'est assez hilarant. Je la mettrai dans l'émission ou dans son article. Il y est depuis la première machine date de 1866 par exemple, où on avait déjà des teaching machines comme ils appellent ça. Donc je vous conseille d'aller voir en tout cas cette chronologie, en tout cas cette frise chronologique des machines, des teaching machines. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quand même que ça va mieux maintenant, que c'est quand même plus accessible, en tout cas aux enseignants, d'utiliser des machines, hein, puisqu'ils disent que les enseignants emploient préférentiellement en classe des technologies de bonne utilisabilité. style télé, hein, puisque c'était quand même et le téléphone. En tout cas, il dit que certes, les fins, les objectifs pédagogiques priment sur les moyens, sur les technologies. Cependant, il dit quand même que le choix des moyens pertinents et fiables est important pour réaliser effectivement des fins pédagogiques. Hein. C'est vrai que si l'outil est quand même plus agréable, je pense que les fins pédagogiques sont quand même plus faciles à atteindre. Il dit qu'une bonne technologie, c'est une technologie où on n'a pas besoin de formation technique particulière, en tout cas.
Merci.
Donc, comment ?
Merci, mais amen, amen, amen à ça, quoi. Mais vas-y, finis, voilà. Finis.
Allez, donc là, on part sur les 9 règles de Stephen Downs. Alors, de Stephen Downs, je suis allé chercher qui c'était quand même, parce que je ne connaissais pas ce monsieur. Donc, Stephen Downs, c'est un designer et expert dans les domaines de l'apprentissage en ligne et les nouveaux médias. Un Canadien. Bon, c'est designer et expert dans les domaines d'apprentissage, pourquoi pas, c'est un grand nom un peu pompeux, mais en tout cas, il a présenté 9 règles de. Alors, il y en a certaines qui sont bien bateaux, vous allez voir. Il dit qu'une bonne technologie, c'est une technologie toujours disponible. L'exemple, il prend François Jourde, il dit que le chariot d'équipement, le chariot de tablette, le chariot d'ordinateur, le projecteur, qu'il faut réserver, qu'il faut déménager, qu'il faut monter de 3 étages, eh ben c'est catastrophique quoi. Il faudrait que ce soit une technologie quand on en a besoin, hop, on l'a. Hein, alors il prend l'exemple. Il prend l'exemple de l'ascenseur en disant si on devait planifier notre utilisation de l'ascenseur ou faire des réservations pour utiliser le téléphone, ce serait un petit peu compliqué. Vas-y Seb, tu voulais rebondir?
Ouais, juste un truc, on pourrait faire, on va faire le loto du smartphone. Alors, toujours disponible le smartphone, c'est bon, vas-y.
Deuxième, une bonne technologie est toujours activée. Il dit qu'il ne doit pas exiger de procédure de branchement, de prise, de fil, de câble, etc. D'accord, pas besoin de lancer un système d'exploitation qui va passer 2 heures. D'accord, donc il prend l'exemple du téléphone. Il dit, encore une fois, le système d'exploitation, il est déjà démarré. Il n'y a pas besoin de démarrer un ordinateur, etc.
Ok, bon ben, c'est bon.
Mais il dit quand même qu'il faut bien entendu favoriser les technologies qui sont quand même faiblement consommatrices d'énergie. C'est vrai. 3, une bonne technologie est toujours connectée. Bah oui, si c'est sûr que s'il faut faire 20 000 branchements pour pouvoir se connecter ou appuyer sur 6 codes, 6 mots de passe, etc. pour se connecter, c'est un peu compliqué. Bonne technologie est standardisée. On dit qu'un téléphone, lui, se connecte à n'importe quel autre téléphone. Voilà, il dit que la technologie stupide, bah, ce soit tous ces systèmes d'exploitation différents entre les Windows, les Chrome, les Apple, etc. Il dit que c'est la standardisation qui favorise en tout cas cette interopérabilité. Une bonne technologie doit être simple. Une interface simple. D'accord, on revient, pas besoin de manuel. On n'a pas besoin de manuel, on l'utilise, c'est bon, ça marche. 6, vous m'arrêtez, hein, si vous voulez m'arrêter sur quelques-uns, vous rebondissez après, comme vous voulez.
On fera un prix gros, je pense.
6, une bonne technologie ne nécessite pas de composants. Eh bien oui, on n'a pas besoin de remplacer ni d'entretenir notre téléphone, notre matériel, il n'y a pas besoin de s'amuser à remplacer des choses, etc. Tout doit marcher, c'est
ouais,
universel,
exemple,
c'est standardisé, etc. Ouais. Comment ?
Je trouve que l'exemple est bancal, là, mais c'est moi, là. Enfin, bon, un téléphone, on n'a besoin ni de remplacer, ni d'entretenir quoi que ce soit. Bon, ben, il a un très bon téléphone, j'espère pour lui, mais...
Donc là, voilà. Lui, en fait, il rebondit sur les sur Stephen hein, Downs. Hein. La bonne technologie est personnalisée. Alors là, il prend l'exemple des guichets automatiques des bancaires qui ne seraient d'aucune utilité s'ils n'ouvraient pas votre compte bancaire, et seulement votre compte bancaire. Eh bien, Digi, un traitement de texte vous permettra d'enregistrer vos propres mots dans un correcteur orthographique. C'est une bonne technologie. Par contre, si au contraire, la mauvaise technologie vous oblige à vous adapter à ses exigences, c'est une mauvaise technologie. D'accord ? Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. Ouais, c'est bon ? Une bonne technologie est modulaire. Alors, modulaire signifie composé de pièces distinctes, chacune travaillant indépendamment les unes des autres et pouvant être agencées dans la configuration souhaitée. Alors, il prend l'exemple de la prise USB qui représente une bonne technologie parce qu'elle permet d'assembler à volonté des systèmes numériques et électroniques. Une bonne technologie fait ce que vous voulez qu'elle fasse et pas autre chose. Bah ouais, une bonne technologie, elle minimise le risque d'erreur de l'opérateur. Donc la possibilité de conséquences inattendues. Une bonne technologie est robuste, moins sujette aux pannes et aux dysfonctionnements. Un logiciel qui plante au milieu, bah forcément, c'est une mauvaise technologie. C'est un peu bateau, ça, je trouve. La technologie doit faire exactement ce que vous voulez qu'elle fasse. En tout cas, bon, il y a quand même quelques trucs assez bateaux, je trouve, mais enfin, il conclut sur il est important de se rappeler qu'aucune technologie n'est parfaite. Aucune technologie ne satisfera aux 9 règles, ça on s'en doute. Mais si on peut se rapprocher de ces 9 règles, pour obtenir en tout cas une bonne technologie, il faudrait s'y approcher. Voilà, je trouvais que ça remettait un petit peu, pour nous qui sommes un peu dedans, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu bateaux, mais ça le
Non,
mérite en tout cas de poser des bases.
mais... Ouais.
Seb, je te
Après,
sentais...
ouais, non, mais c'est comme tu l'as dit, ça fait un peu bateau et il y a vraiment des, enfin, il y a des trucs. Après, il y a, on va dire que ça c'est l'horizon et que toi tu marches avec ta technologie, avec tes locaux, avec ton équipement personnel. Alors tu regardes l'horizon, tu dis je l'atteindrai jamais hein, de toute manière et tu marches quand même avec ce que tu as comme tu peux. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais je crois qu'au départ, on était sur l'idée d'avoir des objectifs. Hein. Donc la technologie sans objectif, ça ne sert pas à grand-chose. Alors moi, parfois, tu vois, une technologie qui fait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'on veut qu'elle fasse, et pas le contraire, mais parfois, non. Hein. On n'est pas dans un monde où les ordinateurs sont à même de faire ça, ou quoi que ce soit dans le numérique est à même de faire ça, il y a quand même une idée de se dire la technologie elle peut faire ça, moi j'ai envie de faire ça. Alors c'est peut-être une posture plus de, je dirais, d'enseignant que d'apprenant à ce moment-là, mais la technologie elle me bloque là. Moi mon objectif c'est ça, la technologie elle est bloquée là, alors qu'est-ce que je prends dans la technologie que je peux utiliser et qu'est-ce que je vais devoir ben, tordre hein, tous les dispositifs de hacker les dispositifs pour les mettre à disposition de nos élèves, qu'est-ce que je peux tordre pour le rendre utile? C'est
Tout à fait.
ça. Après, tu sais, le problème des listes comme ça qui sont très théoriques,
Ouais,
mais ce que tu
il y a
veux.
quand
Hein.
même un certain nombre de vérités, quoi, parce que je travaillais ce matin justement pour un projet de recherche avec l'IFE à Lyon, enfin peu importe, sur justement l'utilisation, encore une fois, toujours, parce que tout le monde s'interroge sur l'utilisation et sur les bienfaits ou non. Et en fait, le vrai problème, et tu parlais des tablettes, le chariot de tablettes, mais c'est vraiment l'exemple exceptionnel. Les collectivités locales ont investi des sommes astronomiques là-dedans, et c'est pas utilisé. Enfin, c'est sous-utilisé. Et les trois quarts du temps, c'est sous-utilisé pour les raisons évoquées, à savoir que c'est pas tout le temps disponible. Du coup, il y a de la connectivité, il faut brancher avant, il faut que ça soit rechargé, etc., etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les utilisations de personnel, avec même si c'est pas leur téléphone, les prêts de tablettes à l'année ou autres, sont presque un peu plus concluantes parce que chacun est responsable de son matériel sur du long terme. Alors que là, sur un cours de 55 minutes en plus en collège, enfin tu vois, où il en faudrait le double si on veut vraiment mener une séance tablette, ça marche pas quoi. Et là non plus, alors je suis de plus en plus pessimiste moi par rapport à tous ces outils, ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous, on a vraiment des gens qui ont tenté d'utiliser les tablettes depuis 2-3 ans quand ça a été expérimenté, donné. Là, je parle notamment des schools dont tu connais bien Jeff. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui nous ont dit là cette année, non mais c'est fini quoi, on arrête ça. Une séance sur deux, ça plante parce que ça marche pas, les gosses ne se connectent pas, on en a marre, on veut pas que la technologie elle est trop compliquée, et tu peux que les comprendre quand ils sont pas geekounets comme on peut l'être quoi. Donc la liste, même sentiment que vous, elle fait rien de bien nouveau, mais en fait, je trouve que justement, elle est plutôt réaliste et répond
Oui,
vraiment à ça, quoi.
mais nous,
le
pas
seul problème, c'est...
nous, on n'est pas le public, je pense, tu vois, ceux de ces 9 règles-là. Voilà, on a quelques-unes, on les trouve, mais je pense que pour certains, de se poser les bonnes questions comme ça, elle est pas mal quand même, cette liste. Elle date de 2000, quand même, hein, tu vois.
Ouais, en
Ah,
plus,
t'as été
t'imagines ça
noté
a
chez un
20 ans,
truc de
quoi.
2000?
T'imagines, ouais. Oui, vas-y, Seb, tu
Ouais,
peux...
mais bon... Non, mais c'est le. Je suis. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, tout ce qui nous reste, malheureusement, c'est les bouquins. Hein. Tu vas. Si on veut vraiment avoir un truc, mais voilà. Y a pas, je vois pas d'autres. Je sais, j'en entends des témoignages de trucs qui fonctionnent pas, mais bon, si tu veux répondre à aller dans le sens d'une liste, bah alors on arrête et puis on fait uniquement des bouquins.
Non, mais je trouve
Voilà.
que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, moi je parle de ce que je connais, hein, j'ai plus de retours négatifs que de bienfaits, quoi. J'ai très très peu de collègues. Je parle pas, attention, hein, je parle pas des formateurs dans des réseaux, tout ça. Mais c'est certainement lié aux matières aussi, Jeff. Moi, je veux bien croire que
Oui,
c'est évident,
je suis
c'est
d'accord avec
évident.
toi.
Mais justement, c'est ça qu'il faut pas. C'est évident, heureusement même, j'ai envie de dire que a priori, les profs plus scientifiques ou en tout cas a fortiori techno ont plus envie, bien évidemment, et parce que vous avez toujours été plus dans de la manipulation, que donc dans des habitudes de classe plus basées sur du travail de groupe, d'atelier. Qui doivent s'ouvrir sur des cours plus classiques comme les nôtres et qui font que ça marche pas. Mais par exemple, là où j'étais, moi, absolument, j'ai toujours trouvé que pour les langues, l'accès aux vidéos, comme on dit, tout ça, c'était la révolution. Tous les collègues en lycée qui en ont absolument besoin parce qu'ils sont trop nombreux et peu d'heures avec les réformes qu'on connaît, c'est terminé. Par contre, ils font quoi? Ils passent par le matériel des élèves. Sauf qu'ils le font dans des conditions complètement hors cadre, en utilisant les données des élèves parce que de toute façon, il n'y aura pas de portail captif d'ici on ne sait jamais combien de temps. Enfin, tu vois, tout ça, c'est long. Donc, ils demandent aux élèves, bah, prenez vos téléphones et en avant Simone, avec tous les problèmes qu'il y a derrière des parents qui vont dire ben moi je suis pas d'accord et moi je passe et voilà. Ben donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai pour le moment. Pour l'instant dans nos matières, parce que je vais parler des langues vivantes et je vais parler des matières plus littéraires aussi, ça marche pas du tout. Ça marche pas suffisamment en tout cas, clairement.
Non mais pas, je suis entièrement d'accord avec toi, pas suffisamment non plus. Je suis entièrement d'accord.
Après, si vous voulez, les gars, là, c'est
Mais
le truc qui va jouer. Après, Jeff, hein, c'est que là-dessus, forcément, on ne peut pas avoir la même vue. Vous avez une vue carrément sur des établissements. Moi, j'ai une vue sur une classe. Hein. Donc, techniquement, mon optimum technologique, peut-être que je l'aurai un jour, mais là, je suis très à l'aise, on va dire. Voilà. Alors que vous, techniquement, en tant formateur et en tant que responsable sur des établissements différents, forcément, il y a des écueils auxquels. Dieu merci, je n'ai pas droit.
oui. Et puis même sur de la manipulation en général, tu vois, on parle des tablettes, là, des histoires d'identification du réseau, ou les tablettes que nous on a, c'est pas si évident que ça. Il y a des gamins qui ont quand même leur bon code, mais qui marche pas parce que sur la tablette, bon, c'est compliqué. Moi, je le règle en direct parce que je suis l'admin du truc et que je peux le corriger et tout
Oui,
ça. Et l'autre jour, j'en
et
discutais
c'est
avec
ça
les
aussi.
collègues. Et en
Ça marche
faisant
quand c'est
ça en
quelqu'un
direct, quoi.
derrière, quoi. Voilà. Ouais.
Et voilà, et quand je faisais la formation, je disais, mais si, regarde, et puis il y en a un qui me regarde et qui me dit, mais non, ça, toi, tu le fais parce que tu as l'habitude, mais moi, le temps que je retrouve les codes du réseau, si c'est moi qui dois le gérer, et encore c'est moi qui le gère, enfin, c'est fini, quoi. J'arrête, je continue mon cours à l'ancienne, et la fois d'après, ben, par contre, c'est bon. Donc, je suis quand même assez d'accord avec pas mal de toute cette liste. Je suis absolument pas pour tout arrêter, et finalement, ben, ça me permet vraiment d'enchaîner sur. On peut enchaîner ou quoi?
Oui,
Vas-y,
mais
vas-y,
moi je
pas de souci.
conclurais juste qu'il faut s'en c'est une liste qui est bien et il faut s'en rapprocher voilà, de plus en plus quoi. Tu vois.
Ça me permet
Si
vraiment
on arrive
d'enchaîner
on
sur justement
a...
ce que je fais en ce moment en fait, et qui est lié
Ah.
à plusieurs choses en fait, qui est lié à un projet. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir mené un projet dans mon établissement qui ressemble à une cité scolaire, ça s'appelle pas comme ça, mais peu importe, qui fait que depuis l'année dernière, on est ce qu'on appelle un établissement Euroschool, c'est un nouveau label, donc qui a pour but comme son nom l'indique, qui a vocation d'avoir plus de projets internationaux, ça va se multiplier, on n'est que deux dans la Loire pour l'instant à être Euroschool, et quelques-uns dans l'académie, et puis ça va vraiment se lancer avec force, donc construire des projets Erasmus+, eTwinning, tout ça, je pense que certains d'entre vous connaissent bien. Et pour les construire, on va avoir besoin de communiquer et de se lancer sur la plateforme eTwinning qui propose déjà plein d'outils de communication et tout ça. Et là, je suis vraiment très content parce que clairement, je vais avoir des besoins réels d'utiliser ces outils de l'information et de la communication, comme on dit. Et donc, j'ai hâte de pouvoir les utiliser parce qu'il faudra échanger à distance et collaborer à distance pour des réalités existantes. Parce qu'on n'est pas ensemble au même endroit. Alors que c'est vrai que les projets un peu, on va dire, synthétiques pour utiliser des outils, mais finalement on n'en aurait pas forcément besoin parce qu'on est tous dans le même coin, ça me commençait un peu à me gonfler. Bon, ça c'est le premier truc. Après, l'idée aussi, justement, c'était de revenir à la fois sur des projets numériques, mais en réutilisant le papier. C'est-à-dire que moi, je suis de retour à une volonté de quand même utiliser le papier. Par exemple, en plus de la vidéoprojection dans ma classe, parce que j'ai la chance d'avoir des manuels en double jeu, c'est-à-dire qu'il y a un manuel qui reste à la maison pour les petits sixièmes et quand même un manuel en classe parce que je peux en avoir deux, et ben, on va quand même vous faire ouvrir le livre. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, pour tous ces gamins-là, dans mon établissement, dans ma zone de travail, certains n'ouvraient plus de livres. Plus de livres. Et quand on arrivait dans des classes avec des profs comme moi qui étaient que sur des tablettes également, j'ai eu un parent un jour qui m'a dit « Ouais, moi... » Alors, c'est les parents qui vous disent ça, pour le coup, c'est les parents qui font ouvrir des livres à leurs enfants, mais qui disaient « Je trouve qu'ils en font quand même un peu beaucoup aussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen un peu de... peut-être de varier, quoi ?» Et sur le coup, un peu énervé, « Ouais, non... » Et en fait, en y réfléchissant, il n'avait pas complètement tort. Donc, je crois qu'il y a une... On peut vraiment, on sait que la réponse elle est de toute façon au milieu de tout ça. Et tu vois, le fait d'utiliser un projet numérique pour collaborer, mais par exemple pour créer au final, faire imprimer un livre créé par les enfants, et ben ça, je crois que c'est un truc qui va me plaire en fait. Plutôt que de refaire encore un e-book qui sera uniquement sur une plateforme, dans un ENT, partagé, repartagé. Avec le fait que le petit, il reparte avec un truc un peu physique, tu vois, ça m'intéresse. Et parce que justement, on aura créé quelque chose qui va marcher du premier coup et qui sera le témoignage de quelque chose de... Voilà. Alors, Jeff, toi, peut-être que vous avez toujours produit des choses qui restent aussi physiques, parce que tu es dans des matières vous étiez... Tu vois, nous on était, c'était que le papier. Il y a eu ce truc de numérique qui arrive d'un coup, tout le monde s'est... Dans les gens comme moi, entre guillemets, un peu innovants, qui ont voulu tester des trucs, on est passé du coup tout au numérique. Et là, tu vois, ben, je reviens un peu. Parce qu'en fait, c'est bien. C'est très bien, bien sûr, ça paraît débile de dire comme ça. Ça fait un peu le ravi de la crèche, là, tu vois, des années après. Ah, il est en train de dire qu'en fait, non. Mais voilà, j'ai voulu tester ce truc-là. Et ben, voilà, je crois que je vais faire un peu des choix cette année sur l'utilisation. Je vais pas aller dans l'outil pour l'outil parce qu'on multiplie des trucs et on l'utilise jamais deux fois. Des fois, des outils qu'on va utiliser une fois dans l'année. Donc, les gamins, à chaque fois quand tu l'utilises, il faut leur expliquer l'année d'après parce qu'ils ont pas l'habitude. Et c'est ce que tu disais dans les règles, c'est ce qu'il disait le mec dans les règles, hein. C'est-à-dire que y a besoin aussi de ça, quoi. Donc vraiment limiter le nombre d'applis, limiter, tu vois, voilà. Et je le vois bien, hein, moi, Socrative, par exemple, pour parler de Socrative, j'utilise tout le temps. Quand je leur donne la tablette qui voit l'écran qui s'affiche, ils ont compris qu'il faut rentrer le nom de la salle qu'ils connaissent par cœur et on gagne un temps fou. Alors que quand je vais utiliser un truc au milieu, putain, tu perds un temps en manip, c'est l'horreur et t'enseignes plus, quoi. Je trouve qu'on enseigne moins en fait, clairement. Voilà, tout simplement.
Guillaume, on est bien d'accord que là, par exemple, ton exemple des applis, c'est même un conseil qu'on pourrait donner à tous les débutants, que ce soit débutant en enseignant ou débutant qui a envie de se lancer dans le côté un peu geek, on limite absolument les applis. Il vaut mieux en avoir 3 dont on se sert toute l'année plutôt que 10 qu'on va renouveler à chaque fois, quoi, bien sûr.
Tout à fait. Mais voilà, je trouve que il faut je pense qu'on peut trouver l'équilibre vraiment entre tout ça et c'est chouette parce que voilà, les quelques collègues qui continuent vraiment à être là-dedans, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment à fond, peut-être trop en fait, voilà, en oubliant.
Il faut varier, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de. Faut pas rester enfermé dans le numérique et pas varier, il faut tout le temps varier. Et puis même les gamins,
c'est
tout
ça. Donc voilà. Si, vous me faites une transition pour moi, ce que je fais en ce moment, c'est justement à la frontière entre.
Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais, toi ?
Alors moi, l'année dernière, j'ai acheté un truc qui s'appelle Pidapi. PIDAPI, c'est un acronyme, c'est Parcours Individualisé d'Apprentissage en Pédagogie Institutionnelle. En gros, la version que j'ai achetée concerne l'évaluation de compétences en français et en maths et organisée sous forme de ceinture, hein, comme dans les arts martiaux. Et par exemple, pour avoir la ceinture verte, je dis quelque chose d'assez rapidement, il faut avoir obtenu telle compétence dans le groupe des mots, telle compétence dans les phrases, les textes, le calcul, les nombres, etc. Voilà. Et tout ça m'est arrivé sous la forme d'un bon pavé de 1500 pages qu'il faut classer, etc. Et mon grand pari de l'année, mon gros boulot de cette année, c'est de prendre ces 1500 pages, ces 3 x 500, puisque chaque chose est en 3 fois exemplaire, de prendre ça et de voir ce qui vaut le coup d'être en numérique pour alléger un peu le tout. Est-ce qu'il vaut le coup d'être en papier pur parce que ça sert à rien de repasser sur le numérique? Un exemple tout bête, j'ai pris le parcours individualisé de chaque élève, je l'ai reporté sur un truc que je faisais avant avec la QR carte dont j'ai parlé dans le numéro précédent. Et ça, par contre, j'ai mis en numérique parce que les élèves y ont bien accroché et savent très bien se repérer avec. Par contre, il y a des tas de choses que je vais garder en papier, des exercices de base, ben, je les garde en papier, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Pas à fond dans le numérique, pas entièrement.
Très bien.
Et Jeff ?
On a perdu Jeff.
Apparemment. Alors,
on l'entend plus.
Non.
Ah, j'avais coupé mon micro.
Ah, mais
j'avais coupé mon micro parce que je suis en train de prendre mon dessert, si vous voulez savoir.
Philippe Risoli, quoi. Allez, vas-y.
Je voulais pas faire de bruit. En ce moment, je suis dans le réseau informatique dans plein de domaines. Pourquoi ? Parce que, bah, déjà, dans mes cours classiques de technologie, j'ai beaucoup aussi intervenu dans le. Vous savez, j'avais beaucoup parlé. De sciences numériques et techno, la nouvelle discipline en seconde, etc. Donc beaucoup là-dedans. Donc pas mal d'activités sur le réseau, sur comment faire passer le réseau aux élèves, ce qui est pas forcément facile, hein, de comment marche Internet, parce que tu leur poses la question sur comment on communique avec deux ordi, bah c'est Internet, c'est tout le temps Internet. Ils savent pas trop ce qui se passe physiquement, et encore moins du côté logiciel. J'ai utilisé, en tout cas, il y a un truc qui est assez génial, je sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle TraceRoute. Alors en réseau, c'est assez connu le trace route, hein. C'est que on va chercher un site internet, on trace la route en gros de notre ordinateur au site internet et on voit par où ça passe et par tous les dispositifs, tous les routeurs, hein, et toutes les adresses IP, hein, qui se rajoutent. On voit vraiment que en ce moment ça passera par une route et une heure plus tard peut-être ça passera par une autre route. Et ce qui est assez sympa, c'est de le voir aussi visuellement sur une carte. Et j'avais trouvé un petit site qui s'appelle geotraceroute.com, qui est assez sympa, où on va rentrer là où on est, sur quel site on veut aller, et on voit que ça passe dans une multitude de pays. Et les élèves, quand ils regardent ça, ils disent « Mais comment ça passe de l'Europe de l'Europe aux États-Unis ? Il y a une bonne connexion Wi-Fi, monsieur, c'est ça ?» Non, il y a bien des câbles sous-marins. Donc voilà, ça fait beaucoup parler en tout cas les élèves. Et je pensais que le réseau allait être très compliqué à faire passer. Et les élèves en fait sont vachement attentifs sur vraiment comment ça fonctionne. Et il y a un autre logiciel que je vais parler qui s'appelle Philus, qui est développé, je crois, par une université en Allemagne. Je mettrai le lien. Elle n'est pas qu'en allemand, elle est aussi en anglais, heureusement. Et qui permet justement de simuler tout ça. Voir comment on connecte trois ordinateurs ensemble, comment on connecte un réseau avec un autre réseau, et comment on peut justement recréer un Internet, puisque l'Internet, c'est bien ça, hein. Ce sont des multitudes de réseaux connectés entre eux. Et ça, les élèves, je trouve que c'est assez parlant et c'est assez visuel. Et après, on peut aller vraiment beaucoup plus loin si on souhaite, hein, avec les adresses IP, les DNS, les choses comme ça. Voilà, en ce moment, c'est mon quotidien en ce moment. J'ai attaqué beaucoup là-dessus, sur tout ce qui est réseau informatique, aussi bien au collège qu'au lycée.
Putain, c'est super intéressant.
Voilà, monsieur.
Comment ça, au lycée ? Parce que tu as des cours au lycée cette année, là ?
Non, j'ai formé, en tout cas, les collègues de lycée en seconde.
Au cadre de la nouvelle matière, là. D'accord.
Voilà.
Okay. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Super. Ouais, c'est super, GeoTraceRoute, là. Je connaissais un petit peu. C'est quand même assez. Moi, je comprends que les élèves adhèrent avec ça parce qu'il y a quelque chose pour moi d'assez un peu, comment dire, exceptionnel, quoi. Il y a un truc. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu stimulant, un peu magique. Et c'est pas magique du tout, mais un peu fou, en fait.
On les arrête pas. On les arrête pas, les élèves. Ils te donnent une multitude de sites. Et celui-là, monsieur, testez-le. Et celui-là.
Exactement, pour voir par où ça passe. Ouais. Et puis. Moi, j'aimais bien leur parler aussi, et puis après, toutes les légendes autour des serveurs centraux qui gèrent l'Internet, ces 6 ou 7 serveurs DNS mondiaux qui sont protégés comme les pires forteresses, parce que s'il suffit qu'il y en ait un qui saute, avec tous les scénarios catastrophes qu'il y a autour de tout ça, qu'on entend souvent d'ailleurs dans des films catastrophe.
Donc, c'est les serveurs, c'est les serveurs DNS surtout.
Ouais. Ouais, voilà, les serveurs DNS surtout, ouais, tout à fait. Mmh. Donc c'est rigolo. Et puis d'ailleurs récemment, par contre, il y a eu des climatologues qui s'inquiètent un peu, puisque avec la montée des eaux, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont pas sous la mer, qui pourraient le devenir et qui pourraient poser des gros problèmes au niveau de la communication internet, notamment en Floride, au sud de la Floride, dans ce qu'on appelle les Keys, les petites îles là, qui sont des petites îles et qui pourraient devenir passer sous l'eau. Et pour l'instant, les câbles ne sont pas sous l'eau et ça pourrait poser de gros gros problèmes, puisque c'est pas du tout prévu pour qu'ils soient d'ici quelques années sous l'eau. Voilà.
Allez, on parle d'autre chose. Hein ?
Oui. Si j'arrive à t'entendre, qu'est-ce que tu t'es haché, mon pauvre ? Eh ben, allez-y, commencez. Non, mais c'est bon.
J'ai beaucoup parlé, moi, Seb. Vas-y.
Ok, alors, on va rester dans la tech. Ce que je vous propose pour parler d'autre chose en ce moment, c'est un podcast. Un podcast qui s'appelle Le Mug, que j'ai découvert tout fraîchement cette semaine. Alors, Le Mug est animé par l'équipe de Nowtech, qui est une boîte qui fait pas mal de tests, de présentations de produits techno, donc avec Jérôme, pour ceux qui le connaissent notamment. C'est de la chaîne Nowtech. Je sais plus si je dis, oui, alors, ils ont une chaîne YouTube, moi c'est comme ça que je les connais. Ils font pas mal de tests, moi je le trouve assez sympa dans le ton, ça reste rarement trop technique, ça reste juste à la bonne limite. Et donc là ils ont lancé Le Mug, qui est en fait un réhabillage d'un podcast qu'ils avaient avant, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait TechCop, je sais plus.
Bon, TechScope. Pas très grave.
Donc, TechScope, merci. Voilà, ils l'ont réhabillé et par exemple cette semaine là, si vous aimez les podcasts et voir comment ça peut cafouiller au départ, et ben c'est pas mal du tout, parce qu'ils ont entre les problèmes de lag entre l'image et le son, parce qu'ils veulent aussi faire du live sur YouTube, etc. Mais voilà, ils ont un paquet de problèmes, mais en dehors des problèmes, voilà, le propos est bien. Vous avez 3 rubriques, ça dure 1 heure et c'est chaque jour. Chaque jour, ils essaient de faire un podcast. Donc, si vous voulez vous être au courant de ce qui se passe au niveau de la tech et avoir un petit truc très court, vous écoutez les 20 premières minutes et c'est réglé. Voilà, vous avez ce qu'ils appellent le kawa, c'est 20 minutes. Ensuite, ils continuent, ils ont leur rubrique la tartine où ils parlent d'un thème et ils finissent avec les cornfac. Les jeux de mots sont pires que ceux que j'utilise moi. Donc, vous avez les cornfac sur la
Jérôme,
fin, bien sûr, oui.
Jérôme Kainborg est très très bon. Moi, c'est de l'équipe du Rendez-vous Tech avec Patrick Béja, etc. Donc, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai suivi depuis longtemps.
Et, moi, je le connais.
Le jeu de mots est assez fort.
Voilà, je le suis depuis pas très longtemps, en définitive. Tu sais, c'est les méandres des chaînes YouTube où tu finis par rejoindre des gens auxquels tu as peur. Mais bon, comme ça parle foot. Comme il apparaît dans un bon nombre de chaînes que je connais, etc.
Et puis, d'un moment. Et puis ces vidéos sont super léchées. C'est pas du test à la va-vite. C'est vraiment du test qu'il fait. Hein.
Voilà. Mais c'est pas non plus, tu vois, du test rébarbatif où il va te mettre la liste des techs.
Mais c'est super léché, je trouve. Voilà, c'est bien testé. Voilà. C'est bien fait, quoi. Voilà, un bon son, une belle image. Voilà. Tout à fait.
Voilà.
Très bonne recommandation.
Le mug.
D'autres choses. Ouais. Non, je pensais qu'au départ, t'avais un mug à vendre.
Là, il faut peut-être qu'on fasse des muggy teachers. C'est peut-être une idée. Hein.
Ouais, tu sais on avait fait des stickers. Putain, ça s'est arraché les stickers. Attends.
Tu m'étonnes. Les geeks, ils vont les mettre ça sur leurs ordinateurs. Les teachers, c'est cool. Très bien.
Ouais.
Moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet été, parce que j'ai eu la chance de... Enfin, j'ai pris le temps de le lire, parce que je trouve que l'année va toujours trop vite. Et voilà, c'est un livre, pour le coup, français, puisque je lis souvent dans ma langue d'adoption, qui est l'anglais, mais j'aime bien aussi lire en français, beaucoup même. Et j'avais entendu, en fait, ce monsieur parler à l'époque dans une émission que je vous recommande, une émission littéraire en podcast de monsieur Augustin Trafnard, qui est sur Inter Boomerang, dont je suis assez fan, en fait, je dois bien le reconnaître. Et ce mec, donc Nicolas Mathieu, c'est un mec qui, je sais plus son âge, mais il doit avoir dans nos âges, aujourd'hui une quarantaine. En tout cas, il a grandi dans les années 90. Et il raconte l'histoire de jeunes qui commencent dans les années 90, quelque part dans le nord, dans les régions de l'Est, désindustrialisées. C'est pas très très gai, hein, mais quand même, c'est pas, on pleure pas non plus, mais le fond est très, est finalement très anglais en fait, très filmé, très écrit, comme on peut imaginer un film de Ken Loach ou autre. Et voilà, raconte l'histoire de jeunes à cette époque qui grandissent avec les années, mais ça suit tellement, si vous voulez, ce que nous on a connu dans ces générations-là, puisque d'ailleurs dans le résumé on dit 4 étés, 4 moments de Smell Like Teen Spirit à la Coupe du Monde 98 pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes, etc., etc. Donc c'est vraiment ce fond pop que nous on a connu en tant que jeunes, qui est la toile de fond des histoires de ces jeunes. C'est pas très très gai puisque ça se passe sur un fond, comme je vous ai dit, d'histoire de ville qui perd du travail, avec des destins de jeunes pas toujours en réussite. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, et ça se lit très très bien, c'est très bien écrit, mais c'est pas prise de tête. Et je trouve, en tant qu'enseignant, en fait, pourquoi ça m'a touché encore plus, c'est que les portraits de ces jeunes qui sont décrits, on les reconnaît dans nos élèves, alors, j'ai envie de dire plus dans le second degré, parce que l'histoire de ces jeunes commence au collège, mais voilà, ce mec-là décrit l'ennui que des ados de villes, de cités peuvent connaître, comme enfin, on peut pas comprendre mieux l'ennui de ces jeunes sur un été dans ces villes-là qu'en lisant son bouquin, qui lui n'est pas du tout ennuyeux en fait. Voilà. Donc allez lire ça si vous avez un peu de temps à lui donner, ça vaut vraiment le coup. Il a eu le prix Goncourt, hein, cette l'année dernière, c'est vraiment chouette. Voilà.
Très bien.
D'accord. Merci pour la roue.
Comment passer après ça, moi c'est difficile. Hein.
Ah mais si, tu vas y arriver.
Ah mais ça n'a rien à voir, on parle d'autre chose là.
Ouais non, c'est rapide. En ce moment on entend beaucoup parler du moteur de recherche Ecosia là. Je pense que vous avez tous entendu parler. On entend me parler, etc. Là on entend parler parce que il est devenu. Alors je sais plus l'article de quand il date sur Futura Tech. Il est devenu numéro 1 en France, en tout cas en téléchargement. Très récemment, avec 250 000 installations par jour. Avant, c'était plutôt 20 000 installations de ce moteur Ecosia. Alors Ecosia, c'est le moteur de recherche qui est éco-responsable, puisque tous les bénéfices, en tout cas, d'Ecosia sont reversés à la WWF, et spécialement à la forêt, pour la forêt amazonienne. Et ce qui a fait en tout cas exploser ce Ecosia, c'est justement tous les incendies qui a touché l'Amazonie. Et bizarrement, une catastrophe comme ça, écologique énorme, a fait en tout cas exploser Ecosia. Ecosia, en tout cas pour la petite histoire, c'était quand même créé en lien en tout cas avec c'est Microsoft je crois et Yahoo, il me semble, hein, d'ailleurs au départ, et avec un certain alors j'ai perdu son nom, Christian Kroll, voilà, qui est fondateur d'Ecosia dans les années 2007-2009, il avait créé Ecosia. Donc voilà, c'était un petit pouvoir un petit peu pour parler de ça. C'est un peu étonnant ce site-là, parce que c'est vrai que moi qui avais donné l'an passé à la fac de Lyon, tous les étudiants avaient tout de suite sur Ecosia. J'avais été assez étonné, moi qui avais entendu parler vaguement de ce Ecosia. Donc je m'étais un peu renseigné là-dessus. C'est vrai que c'est assez, assez surprenant en tout cas ce moteur de recherche qui arrive en tout cas à concurrencer un petit peu les géants, quoi, comme Bing et comme Google. Voilà pour la petite histoire.
Très bien, Ecosia, effectivement. Bon, bah, ma foi, on en termine a terminé sur cette belle première émission.
Ben oui. Bon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter avec eTeachersFR. Vous nous retrouvez bien sûr sur le site teachers.fr, vous nous retrouvez sur Spotify, vous nous retrouvez un peu partout. N'hésitez pas à nous mettre un petit peu des commentaires, nous dire si on a dit des bêtises ou si vous voulez rebondir un petit peu à ce qu'on a dit. Voilà les gars, pour cette première de la saison 6, si on veut vous retrouver, comment on fait ?
Eh bien, moi, ça n'a pas changé. C'est toujours at Willow Teach, Willow, W-I-2-L-O, underscore, Teach, T-E-A-C-H.
Seb ?
Toujours Twitter avec at S-T-I-T-E-U-R.
Eh ben, nickel.
Et Jeff ?
Et moi, si vous voulez me retrouver, c'est plutôt le dimanche matin sur mon vélo. Vous pouvez me retrouver dans le coin. On pourra se rencontrer. On se laisse de se retrouver dans 15 jours, les gars ?
Ouais, tout à fait.
Allez, ciao.
Ciao.
Ciao.